Avant de commencer, donc, je voudrais insister sur quelque chose que je trouve paradoxal. C'est que le chef-d'œuvre inconnu, c'est une des œuvres les plus connues de Balzac, qui est vraiment mythique, alors que c'est une nouvelle qui ne fait que 30 pages. Si on regarde cette édition, par exemple, on a sur la couverture seulement le chef-d'œuvre inconnu, alors qu'il y a aussi Gambara et Massimi Lavoni, qui sont beaucoup plus longues. Donc c'est vraiment la preuve. C'est une œuvre mythique et d'ailleurs elle n'a pas cessé d'être rééditée. J'ai un peu regardé, on a au moins une édition par an du chef-d'œuvre inconnu. Comme vous le savez peut-être, le chef-d'œuvre inconnu a aussi donné lieu à un film de Jacques Rivette, donc La Belle Noiseuse, et puis il y a aussi donc, Picasso qui a illustré le chef-d'œuvre inconnu, également donc, Cézanne qui, pour qui c'était une des meilleures œuvres de Balzac et qui disait que le drame de Fraunhofer, du peintre Fraunhofer, lui arrachait des larmes parce qu'il reconnaissait ses problèmes face à la création artistique. Donc on voit, voilà. Donc je trouve ça très paradoxal et c'est une question que je n'ai cessé de me poser en lisant le chef-d'œuvre inconnu. Pourquoi cette œuvre est-elle aussi mythique alors qu'elle est si courte donc pour moi, c'est la question qui va un peu orienter ma lecture. Et en fait, il me semble que si cette œuvre est aussi connue et mythique, c'est parce qu'elle pose des questions fondamentales qui sont, au dire de Balzac, des questions proprement philosophiques sur l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un créateur et puis qu'est-ce qu'une œuvre d'art et aussi qu'est-ce qui distingue la folie de la création artistique. Donc des questions qui sont vraiment fondamentales et qui font, à mon avis, auxquelles on doit cette postérité de l'œuvre de Balzac. Alors pour commencer, je voudrais évoquer la jeunesse de cette œuvre, non pas parce que ça se fait, mais parce que cette jeunesse me semble très intéressante pour comprendre l'œuvre. Il faut savoir que l'œuvre a été écrite en fait en deux fois. Donc il y a eu une première publication en 1831, à un moment où Balzac vient d'achever La peau de chagrin, et donc il est encore au début de sa carrière, et il n'a pas du tout, en tout cas il n'a pas formalisé le projet de la comédie humaine. Donc ça veut dire que le chef-d'œuvre inconnu, dans sa première mouture, ne s'inscrit pas dans cette architecture globale de la comédie humaine, ce n'est pas encore ce qu'il appellera plus tard une étude philosophique. Donc cette œuvre, en fait, au moment où Balzac vient de finir La peau de chagrin, comme d'habitude, il s'est plaint des éditeurs qui ne voient ses romans que comme du papier noirci, qu'il est tenu de rendre à un moment donné, et donc il a décidé de ne plus écrire pour les éditeurs, mais pour les journaux, parce que ça paye mieux. Donc ça, je vous conseille d'ailleurs de lire la biographie de Balzac par Stefan Zweig, et en fait, toute la biographie, il parle de cet aspect financier qui motivait Balzac. Il écrivait pour gagner de l'argent, parce qu'il était toujours criblé de dettes. Donc là, il décide d'écrire pour une revue. Or, donc une toute jeune revue, donc qui vient d'être créée en février 1831, lui a commandé une œuvre. Et cette revue, elle s'appelle L'Artiste. Et donc, c'est une revue qui est destinée à défendre le statut des artistes. Et donc c'est une œuvre de commande, et c'est une revue surtout où on défend le statut des artistes à travers des contes. Donc c'est vraiment donc, une revue qui accueille des contes, et qui a notamment accueilli des contes d'Hoffmann. Donc c'est la mode des contes d'Hoffmann à cette époque en France, et donc du conte fantastique. Et donc juste avant la publication du chef-d'œuvre inconnu, Hoffmann a publié dans cette revue une nouvelle qui s'appelle « La leçon du violon », qui est très courte et qui en fait a inspiré le chef-d'œuvre inconnu. Donc ça, je voudrais vous en parler maintenant. L'idée du chef-d'œuvre inconnu n'est pas du tout originale. C'est un véritable pastiche de la trame narrative du chef-d'œuvre inconnu, de la leçon de violon. Donc, si on résume, on a une œuvre de commande. Donc une œuvre de commande, ce qui est de faire un conte à la manière d'Hoffmann. Donc pour l'ambiance. On doit avoir un conte fantastique, mais aussi donc avec reprise de la trame narrative de la leçon de violon. Donc pour faire très vite, la leçon de violon, en fait, donc je viens de la relire exprès pour ce cours. Donc c'est un conte où il y a trois violonistes, donc exactement comme dans la nouvelle. l'un qui est jeune et encore donc il n'est pas encore initié au violon, mais c'est un bon exécutant, un moins jeune et un plus vieux, donc qui se rencontrent. Et le personnage le plus âgé est une espèce d'original qui dispense. Qui est persuadé que c'est le seul dépositaire des secrets d'une technique inégalable, d'une technique du jeu du violon, qui est inégalable. Et donc, il décide de dispenser une leçon au plus jeune des trois. Et la leçon est absolument magistrale. Il découvre, en effet, le jeune homme découvre les secrets de la technique et il arrive à être, alors qu'il n'était qu'un bon exécutant, il devient un véritable violoniste, jusqu'à ce que, coup de théâtre final, ce grand professeur de violon prenne son violon, et à ce moment-là, ironie de la nouvelle, il n'y a que des sons très désagréables qui sortent de ce violon, et la nouvelle se clôt. Donc, chez Hoffmann, il y a vraiment une ironie tragique dans ce drame du professeur et qu'on retrouve dans la nouvelle de Balzac, telle qu'elle est publiée en 1831, puisqu'on a exactement le même schéma, c'est-à-dire trois personnages de peintres. Donc, si vous l'avez lu, vous avez... Enfin, de toute façon, je vais vous faire un résumé. Donc, trois personnages de peintres. Le jeune Nicolas Poussin, le moins jeune Porbus, qui est un peintre officiel, et puis l'original, Fraunhofer, qui va dispenser sa leçon de peinture. Donc, voici le résumé de l'œuvre. Donc, le jeune Nicolas Poussin se présente chez le maître François Porbus, qui est le peintre officiel de la cour de France, et qui a été auteur de portraits du roi Henri IV et de Louis XIII. Dans l'atelier de ce peintre, il rencontre Fraunhofer. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur cette rencontre et sur le portrait de ce personnage qui est fait à ce moment-là. Et il ne sait pas à qui il a affaire. Et lorsque Fraunhofer découvre un tableau que Poussin, lui, trouve magnifique, qui est un tableau de Porbus qui s'appelle Marie l'Égyptienne. À ce moment-là, Fraunhofer dispense une véritable leçon de peinture. Donc il dit que la peinture de Porbus n'est qu'une bonne exécution technique, mais ce n'est pas de l'art. C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose, et donc il dispense sa leçon à ce moment-là. Donc il dit, qui ment-il ? Un rien, mais ce rien est tout. Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n'exprimez pas son trop-plein qui déborde. Donc comme je l'ai dit, Poussin au contraire admire la toile de Porbus, et il s'insurge contre Fraunhofer, qu'il trouve bien trop sévère. Et là, le jeune peintre, qui est encore un néophyte, ose répliquer en disant « Mais cette sainte est sublime ». Donc, Fraunhofer est très étonné de cette réaction, il n'est pas habitué à de telles répliques, et il décide de mettre Poussin à l'épreuve en lui demandant de recopier ce tableau. Donc, très rapidement, c'est assez peu décrit dans la nouvelle, Poussin recopie le tableau magistralement, et c'est pour cela que Fraunhofer décide qu'il est digne de recevoir une de ses leçons de peinture. Donc il donne à partir de ce tableau Marie l'Égyptienne, et pendant qu'il dispense sa leçon, il apporte juste quelques retouches au tableau, et qui suscitent l'admiration de tous. Donc il est dit à ce moment-là que juste avec ces quelques coups de pinceau, que ces quelques coups de pinceau sont toujours si à propos, donc là je cite, qu'on aurait dit une nouvelle peinture trempée de lumière. Donc il y a vraiment cette idée qu'avec quelques coups de pinceau, une œuvre passe d'une habile exécution technique d'un artisan à l'œuvre d'un artiste génial. Ensuite, donc, les trois artistes vont déjeuner chez Fraunhofer, et Porbus, à ce moment-là, demande à Fraunhofer de lui montrer son chef-d'œuvre qu'il cache jalousement depuis 10 ans, dont il parle et que personne n'a jamais vu. Donc le chef-d'œuvre inconnu, qui s'appelle La Belle Noiseuse. On apprend qu'il lui a déjà demandé à de multiples reprises, mais en vain. Il ne lui a donc jamais montré. Fraunhofer n'arrive pas, s'il ne la montre pas, c'est parce qu'il n'arrive pas à y mettre le coup de pinceau final. Et il dit qu'il n'a pas trouvé le modèle qui lui inspirerait la perfection à laquelle il souhaite aboutir. Poussin rentre alors chez lui et est fasciné par cette rencontre. Et il retrouve son amante Gillette. Et la fin de la première partie se clôt ici. Donc, lorsqu'il retrouve son amante Gillette, pour la première fois, il la regarde d'un œil d'artiste et il prend conscience qu'il est face à une beauté parfaite. Et donc là, c'est une sorte d'intrigue secondaire dans l'intrigue qui est directement héritée d'Hoffmann, c'est la relation entre Poussin et son amante. Et donc, en la regardant pour la première fois d'un œil d'artiste, on verra qu'il se détache, de sa maîtresse et qu'il accède par là au statut d'artiste. Et donc, à ce moment-là, il se dit que son amante serait le modèle idéal pour Fraunhofer et il lui demande de poser pour lui. Alors, peut-être que vous avez été un peu étonné de cette dispute entre les deux personnages qui n'est en fait qu'à peine esquissé à la fin de la première partie, où Poussin lui demande de poser et Gillette ne veut pas. Je suis désolée, comme j'ai vu des sourires par rapport à ce prénom, du coup ça me fait rire maintenant de le prononcer, je n'ose plus. Donc là, elle comprend que son amant ne le voit déjà plus comme une maîtresse, mais comme un objet aussi. Donc là, la première partie se clôt là-dessus. Dans la deuxième partie, donc Fraunhofer, après des hésitations, accepte que Gillette devienne son modèle, même s'il est sûr qu'elle n'est pas aussi belle que son modèle à lui, qui s'appelle Catherine Mesco. Catherine Mesco, ce n'est pas un vrai modèle, c'est son modèle imaginaire. Et il est sûr que personne ne pourra jamais entrer en concurrence avec. Grâce à ce don, le peintre retourne à son tableau et il achève enfin sa belle noiseuse sur laquelle il a passé 10 ans. Il accepte alors de la montrer à Poussin et Corbus, mais exactement comme dans la nouvelle d'Hoffmann, la découverte du chef-d'œuvre est un véritable coup de théâtre puisque Poussin et Corbus n'y voient, donc là je cite, qu'un chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, dont seul émerge un pied d'une rare perfection. Poussin va même jusqu'à se demander si le vieillard ne se moque pas d'eux et s'il ne leur montre pas autre chose que son chef-d'œuvre auquel il travaille depuis 10 ans. Et il dit aussi qu'il ne voit là que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture. Donc on voit bien une nouvelle qui aboutit à l'échec du maître de peinture, qui pourtant avait été capable d'insuffler la vie à l'œuvre de Corbus. Donc il était capable de retoucher l'œuvre d'un autre, mais qui est lui-même incapable de créer. Mais la nouvelle ne s'achève pas là, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une intrigue secondaire qui vient se mêler à cette intrigue principale, mais qui est la fin des aventures de Poussin et de son amante. Donc Gillette dit à Poussin qu'elle le méprise, donc à la toute fin, de l'avoir prise pour une marchandise. Et donc ça, c'est très rapidement expliqué. Et Poussin et Corbus quittent le peintre et le laissent dans un piteux état. La fin est très abrupte. C'est la suivante. Le lendemain, Corbus, inquiet, revint voir Fraunhofer et apprit qu'il était mort dans la nuit, après avoir brûlé ses toiles. Donc l'échec du peintre va jusqu'à sa mort, au moment où il a montré son œuvre d'art. Donc vous aurez bien compris qu'on a une même structure que dans la nouvelle d'Hoffmann, 3 artistes qui ont la même fonction, un même coup de théâtre, et la même idée que la trop grande recherche d'une perfection formelle tue l'œuvre d'art. Donc c'est vraiment, pour cela, on peut presque parler de pastiche d'Hoffmann. Et en plus de cette trame narrative qui est identique, on a aussi un personnage qui est le Fraunhofer s'apparente à un personnage diabolique qui est tout à fait conforme au principe du conte fantastique. Donc si l'on relit le portrait, donc, dans mon édition c'est page 44-45, lorsque le personnage apparaît, vous allez voir qu'il a tout d'un personnage de conte fantastique. Donc un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place. Il l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aimaient les arts. Mais il aperçut quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi qui appréhende les artistes. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate, une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux verts de mer, ternis en apparence par l'âge, mais qui par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devait parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus encore par ses pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Donc un peu plus loin, il parle de sa couleur, de la couleur fantastique, et puis aussi on a cette comparaison, lui suscitait dit une toile de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est approprié ce grand peintre. Donc ici, on a un personnage qui est presque comme un spectre. Donc dans les contes fantastiques, on a souvent cette idée d'une œuvre d'art qui s'anime et qui vient hanter, je pense notamment à la Vénus d'Île de Mérimée. Donc là, c'est très proche et c'est la mode du conte fantastique. Moi, c'est tout à fait conforme. Et puis, donc un peu plus loin aussi, on peut voir aussi que lorsque Poussin regarde faire dispenser sa leçon, donc on a la phrase suivante. Pour le jeune Poussin, il semblait qu'il y eût dans le corps de ce bizarre personnage un démon qui agissait par ses mains en les prenant fantastiquement contre le gré de l'homme. L'éclat surnaturel des yeux, les convulsions qui semblaient l'effet d'une résistance. Donc on voit un portrait d'un artiste habité par son art et dépossédé de lui-même. Donc, pour récapituler, la nouvelle, lorsqu'elle paraît en 1831, a tout du conte fantastique, et on voit bien ici que c'est une œuvre de commande. Mais pourtant, dès la première version, on a des retouches de la trame narrative qui éloigne le texte de son modèle, et je pense que c'est en partie pour cela que ce texte est un peu sorti du lot, parce que c'est vrai que sinon, si Balzac s'était contenté de faire un pastiche d'Hoffmann, je ne vois pas pourquoi l'œuvre aurait eu une telle postérité. Donc ici, je vais m'intéresser à cette intrigue secondaire, donc, qui est la relation entre Poussin et son amante. Personnellement, lorsque j'ai lu cette intrigue, cette intrigue m'a gênée. Quelle raison ? Parce que il me semble qu'elle n'est pas assez développée pour susciter une émotion, et en même temps trop développée pour... Et du coup, elle gêne la lecture de l'intrigue principale. Et donc, je me suis posé cette question, pourquoi cette intrigue ? Alors, il me semble que dans cette intrigue, on a un thème typiquement romantique qui est de montrer le conflit entre l'amour et l'art. Donc, pour les romantiques, il y a vraiment cette idée que l'amour est incompatible avec l'art. Et donc, cette intrigue sentimentale me semble illustrer ce conflit. En effet, donc, ce couple incarne le conflit, puisque Nicolas Poussin est conduit, au cours du récit, à choisir. Et il sacrifie son amante au cours de son récit initiatique. Pour Nicolas Poussin, donc, il y a un véritable récit, une véritable initiation, qui passe donc par le sacrifice de son amante. Donc on voit bien le personnage qui se détache de plus en plus de son amante lorsqu'elle lui dit à la fin de la première partie « Tu ne penses plus à moi et cependant tu me regardes. » Donc « Tu ne penses plus à moi et cependant tu me regardes », c'est-à-dire ton regard a changé. Tu n'es plus un amant, mais un artiste. Et tu ne vois plus comme ta maîtresse, mais comme un modèle. Ensuite, on peut voir aussi que cette intrigue secondaire est finalement donc très importante dans les titres donnés aux deux parties de la nouvelle, puisqu'au départ, en fait, dans la première version, les titres des deux parties, c'était Maître Frenhofer et Catherine Lescaut. Donc dans la nouvelle version, c'est Gillette, Catherine Lescaut, donc il y a vraiment l'idée qu'il y a une confrontation entre la femme réelle et le modèle idéal imaginé par l'artiste. Et l'idée que le modèle idéal prend le dessus sur la femme réelle. Donc, comme je l'ai dit, on a Poussin qui sacrifie son amour au profit de la contemplation esthétique, et c'est là qu'il peut devenir un vrai peintre. Donc, toujours par rapport au regard, à la fin de la seconde partie, Gillette voit Poussin contempler un tableau et elle dit « Il ne m'a jamais regardé ainsi ». Donc, elle se rend compte que désormais, Poussin se consacre entièrement à l'art et qu'elle ne peut plus rien. Et un peu plus loin, on trouve aussi la formule « la sacrifier à la peinture ». Donc il y a vraiment cette idée d'un sacrifice que pour devenir artiste, on ne peut pas être amoureux. A l'inverse, ce qui est très étonnant, c'est que Fraenhofer, lorsqu'il parle de Catherine Lescaut qui n'existe pas, il en parle comme d'une amante, alors que c'est un modèle imaginaire. Donc voici, j'ai relevé des moments où il en parle de cette façon. Voilà 10 ans que je vis avec cette femme, elle est à moi seule, elle-même. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de pinceau que je lui ai donné? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Ce n'est pas une toile, c'est une femme avec laquelle je pleure, je ris, je cause et je pense. Donc contrairement à Poussin, d'ailleurs, il ne veut pas l'exposer au regard des autres. Voici ce qu'il dit. Ah ah, je suis plus amant encore que je ne suis peintre. Oui, j'aurai la force de brûler ma belle noiseuse à mon dernier soupir. Mais lui faire supporter le regard d'un homme, d'un jeune homme, d'un père peintre, non, non, je tuerai le lendemain celui qui l'aurait souillé d'un regard. Je te tuerai à l'instant en toi, mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux. Veux-tu maintenant que je soumette mon idole au froid regard et aux stupides critiques des imbéciles? Ah, l'amour est un mystère. Il n'a de vie qu'au fond des cœurs et tout est perdu quand un homme dit même à son ami « Voilà celle que j'aime ». Donc ici, on voit le peintre qui est jaloux, qui veut absolument conserver pour lui tout seul sa création. On a l'idée que chez Fraenhofer, la conception de l'œuvre d'art est tellement forte qu'elle s'apparente à une vision, et bien entendu, la figure à laquelle on pense tout de suite, la figure mythique, c'est celle de Pygmalion, qui a donné vie à son œuvre d'art, donc qui a réussi à insuffler la vie. Donc, cette comparaison entre Poussin et Fraenhofer est saisissante, car Poussin, lui, au contraire, a présenté celle qu'il aime. Donc on voit un artiste qui se comporte comme un amant à l'égard de son œuvre d'art, et c'est ce qui explique sûrement l'incompatibilité pour le vrai artiste entre l'amour et l'art. On doit avoir pour son modèle imaginaire et pour sa création artistique un amour tellement fort qu'il rend impossible l'amour charnel. D'ailleurs, un tel amour de Fraenhofer pour son œuvre d'art pose, à mon sens, une question fondamentale. Est-ce que c'est un fou en proie au délire? Un personnage en proie à des hallucinations, qui doit être enfermé dans un asile psychiatrique, ou bien un Pygmalion génial qui a réussi à insuffler la vie à son œuvre d'art? Et c'est là que je trouve que la nouvelle est intéressante, c'est qu'elle ne décide pas. C'est à nous de dire ce qu'on en pense. Donc, cette intrigue secondaire, j'ai un peu lu la critique sur Balzac, et en général, la critique est très sévère à l'égard de cette intrigue secondaire, puisque la critique a souvent dit que c'était un ramassis de clichés. Personnellement, j'ai aussi un peu cette impression, je trouve que ce conflit entre amour et art, on le retrouve assez souvent dans la littérature romantique. Voici ce que dit Albert Béguin, qui est un très grand critique de Balzac. Donc la part proprement romanesque du chef-d'œuvre inconnu est aussi bâclée que peut l'être un récit de Balzac, et cette mesure est grande. Les rencontres et les coïncidences s'y produisent à point nommé, trop nativement romancier pour se soustraire au lieu commun et au langage qu'apprécient les liseurs de romans. Balzac ne se refuse aucune des facilités à la mode. Rien de plus faux que les scènes entre Nicolas Poussin et sa maîtresse, l'obéissante et joyeuse jeune fille qui saute sur ses genoux, parée de toutes les richesses féminines et les éclairant par le feu d'une belle âme. Rien de plus mélodramatique que l'attitude du jeune homme, en proie à de naïfs et jolis scrupules, la main à la garde de sa dague, devant la porte de l'atelier, où Gillette pose nue pour le vieux Fraenhofer. Rien de plus absurde que le dilemme où se débat Poussin. contraindre par amour de l'art sa maîtresse à se dévoiler devant le vieillard, ou bien par amour de Gilette lui épargner cette cruelle atteinte à sa pudeur. Personnellement, donc là, je sais que le principe de cet atelier c'est aussi de donner une lecture un peu personnelle, j'aurais tendance à épouser le point de vue d'Albert Béguin. Je trouve aussi, donc, comme je vous l'ai dit, que c'est un ramassis de clichés en même temps. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette intrigue secondaire a retenu l'attention du cinéaste Jacques Rivette, puisque dans La Belle Noiseuse, il consacre donc tout le film à la relation entre le peintre et son modèle. Et donc, je pense qu'il n'aimait pas le nom Gillette, qu'il a remplacé par Marianne, parce qu'il avait peur du ridicule. Et il fait passer au second plan les personnages de Porbus et de Nicolas Poussin. Et donc le film montre l'artiste au travail et les relations souvent conflictuelles entre l'artiste et son modèle. Et il me semble ici que c'est le propre d'une véritable œuvre littéraire, c'est de susciter beaucoup d'interprétations différentes et selon les sensibilités de chacun, en fait, on peut être attentif à un aspect de l'œuvre ou bien à d'autres. Moi, voilà, je n'ai pas la sensibilité de Jacques Rivette, donc je ne suis pas particulièrement sensible à cet aspect. Mais pour moi, c'est ça, une grande œuvre littéraire, c'est de pouvoir être appropriée par tout un chacun d'une façon différente et donc de lui donner une nouvelle vie. C'est-à-dire, avec La Belle Noiseuse, en fait, il parle de l'œuvre d'art lui sert de point de départ à une autre création. Et donc c'est pour moi, finalement c'est ma définition de la littérature, c'est ça, c'est une œuvre qui se laisse approprier de façon très différente et qui a autant de signification qu'un lecteur. Mais donc, je vous l'ai dit, je suis plus comme Albert Béguin qui disait que l'essentiel est ailleurs. Et comme il dit, donc, la nouvelle amène le lecteur au bord d'une interrogation autrement vaste. Car, comme je vous l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, ce texte pose des questions fondamentales sur la création artistique, sur ses enjeux, ses modalités et ses formes. Et maintenant, je voudrais m'intéresser à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'intéresse aussi à la genèse de l'œuvre. Donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout oublié que parler de la genèse. Donc, pour l'instant, je ne vous ai parlé que de la version de 1831. Or, dans cette version, le propos pictural est quasiment absent. Donc en fait, toutes les descriptions de tableaux, et puis aussi tous les célèbres passages où Fraunhofer donne sa conception de l'art, étaient absents de la première version. Et en 1637, Balzac ajoute ces passages, parce que, à ce moment-là, le projet de la comédie humaine est vraiment formalisé. Il entend intégrer cette nouvelle à ce qu'il appelle ses études philosophiques. Et donc, le propos doit être philosophique et incarner ce qu'il appelle des causes. Et non pas des effets, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il développe les discours théoriques de Fraunhofer dans le premier chapitre. Et ce sont de véritables pauses dans le récit, donc qui le rendent moins linéaire, mais qui en même temps donc en font une étude philosophique. Par ailleurs, c'est seulement à partir de 1837 qu'il fait mourir le personnage de Fraunhofer. Donc du coup, la nouvelle devient plus la tragédie de l'artiste que la tragédie de cette jeune femme qui est sacrifiée par son amant. Donc c'est vraiment une toute autre perspective et on s'éloigne vraiment du conte fantastique ici pour en profit d'une étude philosophique. D'ailleurs, donc, pour information, si la nouvelle est toujours publiée avec Embarras et Massimiliadoni, c'est parce que pour Balzac, les trois formaient un triptyque sur la création artistique, donc avec l'un sur la peinture, l'autre sur la composition.